www.radioscoop.fr. RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Et tout de suite le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, des combats signalés dans les hauts plateaux du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette région montagneuse est le théâtre d'affrontements depuis 6 jours. Et face aux violences dans l'est du pays, le procureur de la CPI annonce la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Karim Khan a quitté hier Kinshasa après une visite de 3 jours. Avant cela, il s'est entretenu avec Félix Tshisekedi. Pas de volonté d'escalade avec l'Algérie, mais tout de même une menace. Le Premier ministre français entend demander le réexamen de l'accord de 68 entre Paris et Alger. Que contient ce texte? Réponse dans ce journal. Au sommaire également, on est au Gabon où s'ouvre ce matin la période de dépôt des candidatures pour la présidentielle. Au Niger où le gouvernement compte sur une entreprise chinoise pour sécuriser les infrastructures pétrolières. Et puis au Burkina Faso avec cette question qui repart partira du FESPACO avec l'étalon d'or de Yenanga. Vous l'entendrez, 2 réalisateurs burkinabés sont en lice pour le prestigieux prix. 1 mois après la prise de Goma par le M23 et son parrain rwandais, les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 6 jours, des affrontements sont signalés dans les hauts plateaux du Sud Kivu, cette région montagneuse qui surplombe le très stratégique lac Tanganyika. Coralie Pierret, d'un côté, il y a les FARDC, leurs alliés burundais et des milices locales, et de l'autre, un groupe armé allié au M23 soutenu par le Rwanda.
Jusqu'à présent, le ralliement du groupe d'autodéfense Twirwaneho à l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, n'avait pas été officialisé. Le 21 février, leur alliance s'est annoncée dans un communiqué, 2 jours après la mort de leur chef Michel Rukunda, alias Makanika, le 19 février dans une frappe de drone congolais. Depuis, les communes rurales de Minembwe et de Mikenge sont le théâtre d'affrontements, selon plusieurs sources, entre les multiples forces en présence dans la zone. Les Twirwaneho, qui disent défendre la communauté des Banyamulenge, les Tutsis du Sud Kivu, se sont affichés devant la mairie et l'aérodrome de Minembwe en fin de semaine dernière et ont été aperçus à Mikenge en début de semaine. Ils s'opposent aux troupes composées de militaires congolais, de plusieurs milices et de soldats de l'armée burundaise, toujours dans la zone, même si à la mi-février, selon plusieurs sources humanitaires et locales, certains soldats burundais avaient enclenché leur retrait des hauts plateaux. Cette zone, importante à la fois parce qu'elle est l'arrière-pays d'Uvira, située en face de la capitale économique du Burundi, Bujumbura, mais aussi parce qu'elle est située au nord de Kalemi, le chef-lieu de la province du Tanganyika, une ville qui donne un accès au lac du même nom, qui fait frontière entre la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et c'est justement à Kalemi que 2500 soldats sont arrivés il y a une semaine, conséquence de l'avancée de l'AFC M23 vers Uvira. Cette présence militaire avait semé la panique dans la ville. Le chef d'état-major des FARDC s'est rendu sur place il y a 3 jours, évoquant la nécessité d'assurer la sécurité. Côté économique, des pénuries et une hausse des prix sont à signaler sur les marchés, notamment pour certains produits en provenance de Goma et de Bukavu. Une réunion est prévue aujourd'hui au gouvernorat entre les autorités locales, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile. Lui s'est entretenu hier avec Félix Tshisekedi, des hauts magistrats et des associations de victimes. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, était en visite à Kinshasa depuis lundi. Visite pour enquêter sur les crimes commis dans l'Est. Avant son départ, il s'est exprimé au micro RFI de Pascal Moulégois.
Je suis ici, nous sommes en train d'enquêter. Nous avons une nouvelle approche qui doit prouver toutes les responsabilités et créer de nouvelles structures comme un tribunal pénal international pour le Congo et construire de nouveaux partenariats. Personne ne peut prétendre être irréprochable. Je le dis clairement, toutes les parties, le M23 et les alliés, doivent se conformer à la loi. Nous avançons avec les enquêtes. Vos auditeurs doivent savoir que si nous disons quelque chose, c'est que nous y tenons. Ce qui se passe dans l'est de la RDC est inacceptable. Déjà, des crimes visés par le statut de Rome sont en train d'être commis. Nous sommes en train d'analyser qui en est responsable. Si nous obtenons les éléments de preuve de qui est responsable, alors nous allons agir. Nous avons besoin de l'appui international, de sorte que si les juges prennent une décision, elle soit respectée. C'est la seule l'arme que nous avons. Nous n'allons pas nous battre avec des armes, pas avec des insultes pour enflammer les émotions et les passions. Nous allons nous battre avec la justice pour calmer les choses sans distinction, car toute vie est précieuse.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC à suivre tout au long de la journée sur notre site RFI.fr. Nouvelle escalade dans les relations entre la France et l'Algérie. Le Premier ministre français a menacé hier de réexaminer les accords de 68 entre Paris et Alger. Déclaration de François Bayrou à la sortie d'un conseil interministériel sur l'immigration. La question migratoire est au cœur des débats dans l'Hexagone depuis l'attentat de Mulhouse commis par un ressortissant algérien. Il était frappé d'une OQTF, obligation de quitter le territoire, mais avait été renvoyé à 14 reprises par l'Algérie. Il y a donc cette menace de réexaminer les accords de 68, mais Paul Lorgerie, que contient ce texte ?
Pour rappel, en 1968, la France est en plein boom économique et a donc besoin de main-d'œuvre pour se développer. L'Algérie et l'ancienne puissance coloniale signent donc un accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Concrètement, le texte écarte les Algériens du droit commun et leur entrée sur le territoire français est facilitée. Ils n'ont pas besoin de visa mais d'un certificat de résidence pour Algériens valable 5 ans délivré à la condition de trouver un travail, 9 mois après leur entrée sur le territoire. Ce qui leur permet de s'établir librement en France pour exercer une activité économique. Par ailleurs, ce statut leur facilite l'accès à un titre de séjour de 10 ans. Contrairement aux autres nationalités qui doivent résider 5 ans dans l'Hexagone, les Algériens peuvent le demander au bout de 3 années. Mais voilà, le texte a été modifié à 3 reprises au gré des aléas politiques et des relations entre les deux pays et les conditions d'entrée sur le territoire français sont devenues de plus en plus restrictives. Aujourd'hui, il ne reste en réalité plus grand-chose de l'accord initial. Un visa ayant été imposé et les procédures administratives s'étant multipliées pour l'entrée des Algériens en France, bien qu'ils en gardent quelques privilèges.
Paul Lorgerie, notez également que le Conseil de la Nation algérien a suspendu hier ses relations avec le Sénat français, conséquence de la visite de son président Gérard Larcher au Sahara occidental. Tout cela, on y revient dans un peu moins d'une heure avec notre invité, le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie. En bref, au moins 9 morts dans une attaque dans le nord-ouest de la Centrafrique. Cela s'est passé mardi dans le village de Nzoro, à la frontière avec le Cameroun, attaque attribuée à un groupe d'éleveurs armés. Plus de 700 maisons et commerces ont par ailleurs été incendiés. À l'écoute de RFI, 5h37 en temps universel. Ouverture aujourd'hui de la période de dépôt de candidature au Gabon pour la présidentielle. On votera le 12 avril prochain pour élire un nouveau chef de l'État. La participation du chef de la transition, le général Oligui Nguema, est attendue. François Mazet, reste à savoir qui le défiera.
Seules des personnalités de second ordre, voire inconnues, ont jusque-là formellement annoncé leur intention de participer au scrutin du 12 avril. Reste à voir si elles iront au bout du processus et notamment si elles pourront rassembler la caution de 30 millions de francs demandée par le code électoral. Beaucoup attendent la déclaration du général Brice Clotaire-Oligui Nguema pour se positionner. Ce devrait être la semaine prochaine. Si le chef de la transition se présentera en indépendant, il bénéficiera d'un vaste éventail de soutien de partis politiques et d'associations montée pour l'occasion. La machine de l'ex-formation au pouvoir PDG devrait se mettre à son service, un avantage indéniable mais qui crispe de très nombreux Gabonais. Face à lui devrait se trouver le dernier chef de gouvernement d'Ali Bongo, Alain-Claude Bilibinzé, qui enchaîne les déplacements en province ces dernières semaines. L'ex-vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou assure qu'il déposera son dossier, bien qu'il a dépassé la limite d'âge de 70 ans fixée par la nouvelle constitution. Candidat unique de l'opposition en 2023, Albert Ondo-Ossa ne s'est pas encore prononcé. La participation de personnalités comme le syndicaliste Jean-Rémi Yama ou Michel Ondegondou pourrait venir pimenter la course.
François Mazet, la date des élections présidentielles et législatives au cœur des tensions. En Guinée-Bissau, la Cour suprême avait fixé l'échéance pour le 4 septembre, mais en début de semaine, le président Umaro Sissoko Embalo a évoqué la date du 30 novembre. L'opposition, elle, estime que son mandat est censé prendre fin. Aujourd'hui, elle appelle à la paralysie totale du pays en signe de protestation. Comment sécuriser les installations pétrolières du Niger ? La question est au cœur d'un accord signé la semaine dernière entre le ministère de la Défense et une entreprise chinoise, Soraz. C'est elle qui gère la raffinerie de Zinder. Le texte vise à mettre en place un dispositif de sécurité robuste et professionnel autour des infrastructures. Il faut dire que les actes de sabotage se multiplient depuis la mise en service de l'oléoduc Bénin-Niger l'an dernier. Sidi Yansané.
L'accord entre le Niger et la SORAZ marche dans le pas de celui signé en janvier avec WAPCO, l'entreprise pétrolière aussi chinoise qui a construit l'oléoduc transportant le brut depuis Agadem jusqu'au port béninois de Semepoji, l'objectif restant la sécurisation et la protection efficace des installations et du personnel de la raffinerie de Zinder. Car depuis l'ouverture du pipeline il y a presque un an, les actes de sabotage s'enchaînent afin de saper le travail de la junte du CNSP. Le dernier remonte à peine une semaine dans la préfecture de Douchi où des hommes armés ont attaqué la conduite. L'an dernier, plusieurs opérations similaires ont eu lieu, dont deux au mois de juin, par des hommes armés et des rebelles Toubou. Et il y a un mois, deux ressortissants chinois ont été enlevés et leurs gardes nationaux tués. Les détails de ces accords de sécurisation sont inconnus, mais les autorités nigériennes ont auparavant indiqué que Pékin était prête à utiliser des drones de surveillance et à mettre en place au moins 4 aérodromes le long du pipeline. La Chine a misé gros sur ce projet via son entreprise nationale CNPC qui a investi plus de 4 milliards de dollars dans la construction de l'oléoduc.
Sidi Yansane. Au Mali, 200 partis politiques ont boycotté l'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation. La commission en charge de ce dossier a produit un document. Le Front de Libération de l'Azawad, groupe armé indépendantiste du nord du pays, a également refusé de participer aux discussions qu'il qualifie, je cite, de non inclusives. Direction le Burkina Faso avant de refermer ce journal. Ouagadougou, où se tient en ce moment le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Dans la catégorie fiction long métrage, deux réalisateurs burkinabés sont en liste. Denis Kouyaté avec son film Katanga, la danse des scorpions, et Chloé Aïcha Boro avec Les Invertueuses, deux des 17 films en compétition pour l'étalon d'or de Yenanga qui sera décerné samedi prochain. Frédéric Gard.
Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Dany Kouyaté nous plonge dans les coulisses du pouvoir politique. C'est en fait un condensé de trahison, de jalousie, de complot, d'une quête frénétique vers le pouvoir et de révolte des peuples. Le parti pris esthétique du réalisateur est de tourner en noir et blanc. Dany Kouyaté estime que c'est un conte politique qui explique comment le pouvoir peut rendre fou. Une fois qu'on a le pouvoir, parfois on perd facilement le contact avec le sol, regrette-t-il. Un regret qui a dû être partagé par les festivaliers, puisque pour les deux premières projections, Katanga, la danse des scorpions, a fait sale comble. Autre film burkinabé en lice pour l'étalon d'or de Yenanga, Les Invertueuses, premier long métrage de la réalisatrice Aïcha Chloé Boro. Dans son film, elle aborde la question épineuse de l'autodétermination et de la liberté des femmes dans un contexte de radicalisation et de guerre. Avec ses deux compétiteurs, les Burkinabés espèrent remporter l'étalon d'or 28 ans après le sacre de Gaston Caboret avec son film Boudiam.
Frédéric Gara, 5h43 en temps universel. Je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Arthur.